On va prier, on va mettre ce moment au nom du Seigneur. Et on va prendre un chant rapidement pour vraiment entrer dans ce moment. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur.
Gloire à toi, ô Jésus.
Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus de tout cœur. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus de tout cœur.
Nous t'adorons,
Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus, de tout cœur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus, de tout cœur.
Une dernière fois, merci.
Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus.
Merci,
merci Jésus.
Merci,
merci Jésus de tout cœur.
Un frère et une sœur vont remercier le Seigneur de nous avoir prêté notre frère Benjamin pour nous enseigner ce que Dieu a mis dans son cœur. Et nous allons confier aussi ce moment entre les mains du Seigneur et que tout ce qui va être fait soit sous sa houlette, soit sous sa direction, qu'il conduise aussi notre frère et que notre frère disparaisse et que ce Jésus puisse être vu au travers de lui. Alléluia.
Amen.
Frères et sœurs, j'invite un frère et une sœur à prier pour ce moment-là.
Alléluia, notre Dieu, notre roi, nous te remercions. Merci Père pour ce moment précieux que tu nous donnes de partager. Merci pour chacun d'entre nous, Seigneur, chacune de nos vies. Merci de nous avoir gardés durant toute cette semaine. Seigneur, nous avoir donné l'opportunité et la grâce d'être encore autour de ta parole. Nous te remercions pour la vie de notre frère Benjamin, Seigneur. Merci de l'avoir conduit, Seigneur, gardé sur son trajet jusqu'ici. Éternel, nous voulons te confier ce moment. Nous voulons prier, Père, que ton esprit, Seigneur, soit au milieu de nous. Seigneur, nous avons soif de ta parole, nous avons soif de t'entendre, Seigneur. Alors nous prions que vraiment tu nous inondes encore de ta parole, de ton enseignement cet après-midi. Éternel, que ton esprit puisse conduire notre frère, Père, que tu puisses vraiment nous dire quelque chose de spécial au travers de lui. Merci Père parce que tu vas toucher encore chacun d'entre nous. Nous te remettons ces moments Père et que vraiment ton esprit nous dirige et nous conduise. En le nom de Jésus Christ. Amen.
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 Père de gloire, je te remercie car tu vois le monde que nous sommes Père. Et aujourd'hui Seigneur, en ce moment de fraternité, que chacun puisse avoir un plus pour cette journée. Un plus Seigneur Jésus pour ce groupe Père de gloire. Seigneur, donne-nous encore la force et que ton serviteur puisse nous donner un plus et que tu nous permettes d'avancer, Père,
Alléluia.
D'avancer dans notre objectif, Alléluia. Seigneur. Et que chacun de nous puisse avoir sa part et que tu vois, Seigneur, tout le monde qui sont venus se déplacer encore en ce lieu, Père de gloire. Que chacun ne reparte pas de la même manière dont il est venu, Père.
Alléluia.
C'est pour ça que je remets encore ce moment entre tes mains. Gloire à toi, Père.
Ainsi que j'ai prié.
Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Ok, ben bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous. Voilà, quand la première fois que j'ai rencontré votre pasteur Hubert, c'était il y a quoi, 3 ans je crois, en pastoral à Lyon, c'était la première fois que je venais à Lyon. Et puis rapidement il m'a dit que mon papa l'avait surnommé la veuve noire, parce qu'il insistait tout le temps dans la parabole du juge et de la veuve, vous savez. Et il insistait tout le temps pour le faire venir à l'église ici. Et il a eu raison, et mon père est venu ici. Et puis ce qui m'a fait rire ce matin, tout à l'heure, c'est que je priais pour vraiment, voilà, en demandant au Seigneur ce qu'il voulait que j'apporte. Puis j'ai pris un message que j'ai apporté une fois avant. Et dans ce message, je prends justement la parabole de la veuve. Et du juge unique sans même savoir, tu vois que.
Amen.
Ça montre que voilà, Dieu fait bien les choses. Hein.
Amen.
Alors peut-être pour me présenter, ben, donc je m'appelle Benjamin et pas Jérémy comme certains ont pensé. Ont eu de fausses informations.
Ah, je sais pas, on a tous cru qu'ils étaient Jérémy.
Oui, c'est ça, mais c'est.
Mais ça le fait, Jérémy. Et moi aussi dans ma tête, dans
mon
subconscient, j'ai pensé que tu t'appelais Jérémy.
Ah ben tu vois.
Jérémy Peter Smith, ça va bien.
Ouais, on m'a déjà appelé Jérémy, donc je sais pas pourquoi. Peut-être avec Jérémy dans la Bible, ça se rapproche aussi avec ce que j'ai vécu. Mais en tout cas, je m'appelle Benjamin, je viens de Mulhouse, je suis un Alsacien, puis j'habite en Suisse maintenant, je m'occupe d'un groupe de jeunes là-bas. Donc voilà, ce matin, j'ai fait la route, je suis parti à 9h, je me suis dit à midi, j'arrive là-bas. Je suis arrivé quasiment à 2h, il y avait tellement de bouchons sur la route, je crois que j'ai jamais vu autant de bouchons de toute ma vie. Ouais, il y a tout le monde qui rentre de vacances, de ski et tout ça.
Les Parisiens.
Ouais, les Parisiens, et puis tous les autres, hein, tous les Français, ils sont à... sont amusés à aller en Suisse. Donc, bon, je suis bien arrivé. Et puis, si vous êtes d'accord, j'aimerais prendre un message sur la prière. Bon, si vous n'êtes pas d'accord, vous inquiétez pas, je vais pas mal le prendre. On vous appellera juste plus dans cette église. Ça sera fini. Hein. Donc, j'aimerais prendre un message sur la prière, mais surtout sur Jésus. Et Jésus savait prier. Et c'était j'ai fait une série dans mon groupe de jeunes sur le caractère de Jésus en tant qu'homme. Et dans toute cette série, j'ai vu voilà, Jésus qui a été tenté, mais Jésus était obéissant, Jésus était doux et humble de cœur, comme la Bible dit. Jésus aimait les gens, était joyeux. On a fait toute une série comme ça et on a terminé cette série avec la prière. Jésus, c'était un homme de prière. Et pourquoi on a terminé cette série avec la prière ? Parce que je crois fermement que c'est grâce et au travers de la prière que Jésus avait, finalement, de sa relation avec son Père, que Jésus était devenu un homme doux et humble de cœur, que Jésus était un homme amoureux de l'humanité. Jésus était un homme patient parce que, finalement, la prière le nourrissait, la prière lui donnait toutes ces caractéristiques qu'on retrouve dans le fruit de l'Esprit que Dieu fait au travers, en nous et au travers de nous. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, j'aimerais voir un petit peu la prière. Déjà, combien de temps vous me donnez ?
Oh, jusqu'à 18h. Hein.
Jusqu'à 18h.
Bon. 45 minutes. Vraiment.
45 minutes ?
Oui.
Ok. Si vous vous endormez, vous me dites, d'accord ?
On va pas s'endormir.
Bon, ben moi je le vois. Si
là,
je... Est-ce que vous êtes d'accord que je me lève juste parce que ça fait 5 heures que je suis en voiture.
Ça fait 5 heures, t'es vite libre.
Ah, merci beaucoup. Donc moi je suis beaucoup plus à l'aise debout. Pourquoi est-ce que je voulais voir vraiment la prière ? Parce que pour moi, la prière de nos jours, c'est quelque chose d'essentiel. Autant les premiers chrétiens à l'époque, sur le fondement des apôtres, avait besoin de la prière, avait besoin d'une relation de prière, autant Jésus avait besoin d'une relation de prière avec son Père, autant je crois que nous, on a besoin de nos jours à avoir une relation de prière. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Ok. Et pour moi, ce matin, tout à l'heure... Ah, merci, c'est gentil. Pour moi, tout à l'heure, qu'est-ce que vous êtes serviable, dis donc, hein, c'est magnifique. Hein. Dieu est bon. Merci. Pour moi, tout à l'heure... j'aimerais qu'on puisse développer un petit peu tout cet aspect de la prière. Pourquoi ? Parce que la prière, c'est ça qui va nous donner... Voilà. La prière, c'est ça qui va nous donner une relation avec notre Père. Alors, je ne sais pas, je ne vous connais pas, je connais pas vos vies, je ne sais pas où vous en êtes actuellement, mais moi, je sais que j'ai besoin de la prière pour avancer. J'ai besoin de la prière lorsque les choses sont difficiles dans ma vie. Et j'en ai connu, si vous avez déjà entendu mon témoignage, j'ai besoin de la prière pour que finalement, je puisse toujours m'appuyer sur Dieu. Parce que lorsqu'on prie, on est en relation avec Dieu. Alors peut-être avant de développer un petit peu tout cet aspect, j'aimerais vous lire un témoignage. Est-ce que quelqu'un parmi vous connaît Georges Müller? Non? D'accord. Alors Georges Müller, c'était un homme de 1805-1898, j'ai mis la date. Et si je vous encourage à lire sa biographie, c'est lui qui a fondé les orphelinats de Bristol, qui sont très très connus en Angleterre. Et ces orphelinats, le principe c'était simple. Il a dit comme ça, il a dit, moi je veux encourager les gens à vivre par la foi et à demander à Dieu tout ce qu'ils ont besoin. Et puis je décide de fonder ces orphelinats, mais je ne vais jamais demander d'argent à qui que ce soit, si ce n'est à Dieu. Et la seule chose qu'il a toujours fait tout au long de sa vie, qui a été très longue, c'est de prier, demander à Dieu. Il n'a jamais dit à quelqu'un, j'ai besoin d'argent, est-ce que tu peux m'aider? Il n'a même jamais dit les chiffres, la somme qu'il devait avoir, il a toujours prié. Et à la fin de sa vie, Dieu lui a donné la capacité de s'occuper de 10 000 orphelins dans les orphelinats. 10 000 orphelins sans jamais demander un sou à qui que ce soit. Et ça, c'est la prière fervente du juste. Comme nous le dit Jacques 5, verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et cet après-midi, si vous êtes là et vous êtes juste, c'est-à-dire justifié aux yeux de Dieu, votre prière a une grande efficacité. Alors, laissez-moi lire peut-être juste un court. Il y en a des centaines de témoignages comme ça, comme il a vécu, mais un court témoignage. L'évangéliste Charles Inglis raconta ce qui suit à propos de Georges Müller. Lorsque je suis allé en Amérique pour la première fois il y a 30 ans, le capitaine du navire était l'un des plus fervents croyants que je n'ai jamais connu. Alors que nous nous approchions de Terre-Neuve, donc aux États-Unis à l'époque, il me dit « Monsieur Inglis, la dernière fois que je suis passé par là, il y a 5 semaines, il s'est passé une chose si extraordinaire qu'elle a changé toute ma vie de croyant. Jusqu'alors j'étais un croyant ordinaire, comme il y en a beaucoup. » Il y avait à bord avec nous un homme de Dieu, M. Georges Müller, de Bristol. J'avais passé 22 heures sans quitter le pont de commandement, un seul instant, lorsque je sursautais parce qu'on m'avait touché l'épaule. C'était M. Georges Müller. « Capitaine, me dit-il, je suis venu vous dire que je dois être à Québec samedi dans la soirée et nous étions mercredi. »« C'est impossible, lui répondis-je. »« Très bien, lui dit Georges Müller, si votre navire ne peut m'y amener, Dieu trouvera un autre moyen de transport. Depuis 57 ans, je n'ai jamais ni manqué ni été en retard à aucun de mes engagements, répondit M. Georges Müller. Je serais très heureux de vous aider, lui dit le capitaine, mais que puis-je faire? Il n'y a aucun moyen, lui dis-je. Vous voyez tout le brouillard qui est à l'extérieur. Entrons ici et priez. Entrons ici pour prier, me répondit M. Müller. Je regardais cet homme et je me dis en moi-même, de quelle maison de fou s'est-il échappé? Je n'avais jamais entendu parler d'une chose pareille. Et bien souvent, je m'arrête juste, mais bien souvent, on entend que quand on dit à quelqu'un « je prie », il va vous dire « c'est bien ». Mais quand on lui dit « je prie » et j'ai une réponse, alors là, il va dire « alors toi, t'es bizarre ». Hein ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Pourtant, la prière, on est censé s'attendre à une réponse. Et là, c'est exactement ce que cet homme a vécu. Il s'est retrouvé avec quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et voilà, il continue. Je lui dis alors, Monsieur Müller, savez-vous quelle est l'épaisseur de ce brouillard? Il me répondit, non, mes yeux ne voient pas le brouillard, ils voient le Dieu vivant qui dirige tous les événements de ma vie. Il tomba à genoux et se mit à prier de la façon la plus simple. Je pensais, cela ressemble à la prière d'un enfant de 8 ou 9 ans. Il dit à peu près ceci, ô Seigneur, si telle est ta volonté, fais disparaître ce brouillard en 5 minutes. Tu sais que j'ai promis d'être à Québec samedi. Je crois que c'est ta volonté. Lorsqu'il eut fini, je voulus prier moi aussi, mais rapidement il me mit la main sur l'épaule et me demanda de ne pas le faire, en précisant, premièrement, vous ne croyez pas que Dieu va répondre, et deuxièmement, je crois que Dieu l'a déjà fait. Il n'est donc pas nécessaire que vous priez dans ce même but. J'ai dévisagé M. Müller qui poursuivit, capitaine, je connais mon Seigneur depuis 57 ans, et il n'y a pas un jour où je n'ai eu audience auprès du roi. « Levez-vous, capitaine, ouvrez la porte et constatez que le brouillard a déjà disparu. » Je me levais et en effet, le brouillard avait disparu. Le samedi soir, Georges Müller était à Québec comme il le désirait. Et des frères et sœurs, des exemples comme ça, on les vit encore aujourd'hui. C'était plus seulement en 1800, 1850 qu'on vivait des choses comme ça, des exaucements de prières. Qui est-ce qui a déjà eu un exaucement de prière ici? Ok. Mais il y en a certains qui n'ont pas encore eu. Les amis, l'exaucement de prière, c'est destiné à chaque chrétien qui le demande. Chaque chrétien qui le cherche. Et cet après-midi, je voudrais vraiment nous encourager. Moi également. Parce que la prière est une puissance. Ce n'est pas simplement là pour nous exaucer dans ce qu'on demande à Dieu. C'est là pour construire une relation avec notre papa. C'est pas simplement là en voyant Dieu comme un Père Noël qui nous donne des choses dès qu'on les lui demande ou un papa gâteux. Il est là, la prière est là pour créer une relation, une communion avec Dieu. Amen.
Amen.
Alors mon premier point, c'est que Jésus, qui était un homme de prière, aimait la prière. Jésus était un homme qui aimait la prière. Pourquoi ? Parce qu'il savait que si il ne priait pas, il perdait sa relation avec son Père. Donc premièrement, je crois que pour vraiment aimer la prière, il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est la prière. La prière, c'est une grâce. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Et dans ce sens-là, la prière, ce n'est pas quelque chose que nous méritons. La prière, on ne la mérite pas parce qu'on a le droit de s'adresser à Dieu. On va essayer de remettre un petit peu dans le bon ordre qui est Dieu. On l'appelle souvent notre Père, mais Dieu, c'est le Créateur de l'univers. On dit, les scientifiques disent, si ma mémoire est bonne, c'est que la taille de l'univers est de 53 milliards d'années-lumière. Autant dire que c'est grand. D'accord ? Ouais, si vous trouvez que c'est petit, je ne sais pas trop si on a les mêmes valeurs. En tout cas, en Suisse, c'est très grand. Hein. Dieu, c'est le créateur de l'univers. Dieu, c'est le créateur des milliards et des centaines de particules qui composent votre corps. Des centaines de cellules qui composent chacun de vos corps. Dieu, c'est le créateur de toutes les merveilleuses choses qu'on voit dans ce monde. Dieu, c'est le créateur de toutes ces choses-là. Et c'est ce Dieu-là à qui nous avons droit de parler. En réfléchissant encore à ce message tout à l'heure, je me disais, mais c'est vrai. Imaginez-vous maintenant que, un de vous aimerait parler au président de la République, Monsieur Hollande. C'est pas facile. On va pas aller le voir à l'Élysée en lui disant « Écoute, voilà, j'aimerais te parler, comment ça va, t'as bien dormi, voilà. » Ça se passe pas trop comme ça, hein. Mais là, Dieu, c'est le roi des rois, c'est le créateur de toutes choses, et on a le droit de lui parler quand on veut, comme on veut, et de quoi nous voulons. Est-ce que c'est pas merveilleux? Moi, quand je réfléchis à ça, je me dis « Mais c'est une grâce, mais que je mérite pas. Je mérite pas, et aucun d'entre nous ne mérite cette grâce, parce que nous n'avons pas, sans le sacrifice de Jésus, nous n'aurions jamais eu la possibilité de nous adresser à Dieu comme nous pouvons le faire aujourd'hui. Et dans ce sens-là, la prière, c'est un cadeau que Dieu nous donne pour entrer en relation avec lui. Et si vous voulez apprendre à connaître Dieu, priez. Si vous voulez développer votre relation avec Dieu, priez. Si vous voulez vivre des choses avec Dieu, priez. Parce que c'est la prière qui vous fait grandir. C'est la prière qui vous fait découvrir qui est Dieu. Et Dieu, encore une fois, ce n'est pas le Père Noël. Dieu, ce n'est pas ce papa gâteux qui nous donne tout ce qu'on veut quand on lui demande pour n'importe quelle chose. Moi, ça m'a rendu triste. J'ai entendu une fois un prédicateur qui dit « Si vous demandez à Dieu une Ferrari rouge, il vous donnera une Ferrari rouge. » Mais ça, c'est faux, mes amis. Dieu nous donne ce qui est bon pour nous. Et personnellement, je sais que si je reçois une Ferrari rouge, je vais être rempli d'orgueil. J'aurais préféré une jaune, d'ailleurs. Mais Dieu nous donne ce qui est bon pour nous. Ce n'est pas parce que je vais demander une villa au bord de sur la Côte d'Azur que je vais la recevoir. Parce que si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, alors je ne la recevrai pas. Dieu nous donne que ce qui est bon. Et Dieu ne nous donne pas tout ce que nous demandons comme nous le voulons. Si nous ne lui demandons pas des choses qui sont dans sa volonté. Et on va le voir tout à l'heure. Mais la prière, c'est une vraie grâce. C'est un vrai privilège. Je sais que quand moi je vis des temps difficiles, la prière, c'est ce qui me permet, je dois dire, de toujours garder espoir. La prière, c'est ce qui m'encourage. Ben, on parlait de Jérémie. Jérémie, dans la Bible, était un homme qui savait prier. Il y a quelqu'un qui s'appelle David ici. Ben David, dans la Bible, tu liras, c'était un homme qui aimait prier. Et dans ces temps difficiles, c'était un homme qui se réfugiait auprès de Dieu, qui lui priait. Qu'est-ce que c'est la prière, finalement? Je pense qu'on le sait tous, c'est un dialogue. C'est parler à Dieu. La prière, ce n'est pas formuler des formules magiques. La prière, ce n'est pas ça. C'est pas à coup de mots qu'on convainc Jésus de quelque chose, qu'on convainc Dieu de nous accorder quelque chose. C'est pas la quantité, le nombre de paroles que vous allez dire dans vos prières qui vont faire que vous allez être exaucé. Ce n'est pas la beauté de vos paroles qui vont faire que vous allez être exaucé. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement l'attitude de cœur que nous avons quand nous parlons à Dieu. Et moi, ce que j'aime dans le témoignage que je vous ai lu de George Muller, c'est que le capitaine du bateau estimait que George Muller, quand il priait, il avait à peu près le dialogue d'un garçon de 7 à 8 ans. Alors, ça montre à quel point la prière doit être simple. La prière doit être simple. La prière vient du cœur. Elle vient pas du cerveau avec les plus beaux mots qu'on peut dire. Dieu ne sera jamais sublimé, enthousiasmé par la beauté de vos mots. Il sera toujours enthousiasmé par la beauté de vos cœurs et vos sentiments que vous allez répandre devant lui. C'est ça la prière. Ce n'est pas si vous allez chercher dans le dictionnaire les mots les plus rares qui sont les plus rarement utilisés dans la langue française que Dieu va vous répondre. C'est simplement parce qu'il vous aime et que vous lui demandez quelque chose de tout votre cœur qu'il va vous répondre. Amen. La prière, c'est une grâce. Regardez ce que Jean dit. Tout ce que vous demanderez, Jean 14, 13, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. La prière, et c'est un point que j'aime donner, c'est on entend souvent, on prie dans le nom de Jésus. Et moi, je prie dans le nom de Jésus. Mais prier dans le nom de Jésus, c'est pas parce qu'on dit on prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus, on termine notre prière en disant j'ai prié dans le nom de Jésus que ça va se réaliser, parce que ça c'est de la superstition. C'est pas parce qu'on dit dans le nom de Jésus que ça va s'exaucer, parce que ça c'est de la superstition, ça c'est une formule magique. Prier dans le nom de Jésus, c'est par rapport à ce verset là Jean 14, 13, tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Lorsque finalement on prie dans le nom de Jésus, on prie avec l'autorité de Jésus. Tout comme un porte-parole viendrait au nom de celui qui a autorité sur lui, nous prions en venant dans le nom de celui qui a autorité sur nous, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on prie dans le nom de Jésus. Ce n'est pas le fait de dire les mots « dans le nom de Jésus » que la prière va être exaucée. Parce que si vous priez et que vous n'êtes pas dans la volonté de Jésus, ça ne va pas être exaucé. Vous pouvez dire autant de fois « dans le nom de Jésus » que vous voulez, ça ne sera pas exaucé. Priez dans le nom de Jésus, c'est prier avec son autorité, prier avec sa direction, c'est-à-dire prier dans sa volonté. Amen. Amen. Ça va, vous me suivez toujours? Super. Alors, la prière, c'est un dialogue. Et j'aimerais dire, parce que je vois qu'il y a des plus jeunes gens ici, peu importe l'âge que vous avez, la prière, on peut prier n'importe quand, comme on le veut, quand on le veut. La prière, c'est un dialogue. Moi, je sais que quand j'étais petit, alors ça peut vous paraître bizarre, mais j'étais quelqu'un, dans mon témoignage, j'étais quelqu'un de très, 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 très timide. Moi, je ne pouvais pas, comme ça, jamais, si Dieu n'avait pas fait ce qu'il avait fait au travers de, en moi, tout d'abord, j'aurais jamais pu m'adresser comme ça. Mais j'étais quelqu'un de tellement timide, tellement gêné, que moi, j'aimais Jésus de tout mon cœur quand j'étais enfant. Mais j'étais tellement timide, même que les gens me voient prier et tout ça, que je passais mon culte enfermé dans une armoire. Donc ça peut vous paraître bizarre. C'est juste que je voulais que ça soit un temps individuel avec Dieu. Je ne voulais pas qu'on m'entende. Je ne voulais pas qu'on dise « Ah, regarde, tu vois, il prie, c'est bien, il fait comme... » Moi, je voulais servir Dieu, tout. Je voulais l'aimer tout mon cœur, passer du temps avec lui. Et j'étais comme ça, j'étais très introverti, moi j'étais un peu spécial. Et puis je lisais ma Bible dans une armoire à coups de lampe de poche et tout ça, et je priais Dieu là-dedans. Et c'était là ma chambre haute, une armoire, c'était une armoire haute chez moi. C'était ça que j'aimais faire. Et peu importe votre âge, moi je faisais ça quand j'étais très jeune, maintenant je ne rentre plus dans une armoire, donc je le fais dans une pièce. Je ne vous dis pas de vous enfermer dans vos armoires, parce que je crois que vos parents vont s'inquiéter. Hein. Mais si vous voulez prier, priez. Ne vous dites pas « Oh, mais moi je ne peux pas parce que je suis trop jeune. » Il n'y a pas d'âge pour prier Dieu. Il n'y a pas d'âge pour lui parler. Il n'y a pas d'âge. La Bible dit, Jésus dit « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Laissez venir à moi les petits-enfants. Donc, si vous êtes jeune, ou si vous êtes plus âgé, je ne vais regarder personne pour viser personne, mais si vous êtes jeune ou plus âgé, Hubert, je ne te regarde pas. Si vous êtes jeune ou plus âgé, il n'y a pas d'âge. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'aime. J'aime dire aux enfants, il n'y a pas d'âge pour prier. Il n'y a pas d'âge. J'ai entendu des exaucements de prières d'enfants, mais qui étaient splendides. Pourquoi? Parce que ces enfants priaient de tout leur cœur. Mon deuxième, la deuxième partie de ce point, c'est l'importance de la prière. Qu'est-ce que c'est la prière? On vient de le voir, c'est un dialogue. Ça nous permet de créer une relation. Et c'est pour ça que la prière, elle est extrêmement importante. La prière est cruciale pour chaque chrétien. La prière est cruciale. Pourquoi? Parce que lorsque tu pries, encore une fois, ta relation avec Dieu grandit. On ne peut pas, dans la vie chrétienne, stagner. On ne peut pas mettre le point mort et tirer le frein à main, soit en avance, soit en recul. Il n'y a pas de point mort dans la vie chrétienne. C'est soit en avance, soit en recul. Et si on ne passe pas du temps avec Dieu, si on ne passe pas du temps à le chercher, à chercher sa présence, à chercher sa volonté, on recule automatiquement. Sans qu'on le veuille, mais moins on prie, moins on a envie de prier. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Moins on prie, moins on a envie de prier. Pourquoi? C'est très simple. Parce que notre chair n'aura jamais envie de prier. Naturellement, on n'est jamais poussé à la prière. C'est normal, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que sur terre, notre chair nous éloignera, nous poussera toujours à ne pas faire ce que Dieu veut. Mais plus on prie, plus on passe du temps avec Dieu, plus on passe du temps à le chercher, à le connaître. Et là, je tiens à préciser, pas simplement à lui demander des choses, encore une fois, plus on passe du temps à le chercher, plus la loi du Saint-Esprit s'inscrit en nous, plus on est poussé à la prière. Et plus on fait ça, plus on a envie de prier. Moins on prie, moins on a envie de prier. Plus on prie, plus on a envie de prier. Et ça ne dépend pas des sentiments. Vous savez, moi qui passe un peu dans les groupes de jeunes, et même dans mon groupe de jeunes, et des fois j'ai envie de prendre les jeunes et de dire, mais arrête de penser comme ça, parce que change ta pensée. Mais les jeunes, bien souvent, et j'ai envie de dire pas que les jeunes, parce que je l'entends aussi dans les églises, et des fois ça m'attriste vraiment, mais Dieu n'est pas là quand ils n'ont pas des frissons. S'ils prient et qu'ils n'ont pas des frissons, alors Dieu n'est pas là. S'ils n'ont pas des petites chatouilles, alors Dieu n'est pas là. Mais mes amis, ce n'est pas vrai. Dieu est là parce qu'il vous dit dans sa parole qu'il est avec vous. Et il nous dit déjà maintenant, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Dieu est là. On n'a pas besoin de sentir quoi que ce soit. Peut-être que vous avez déjà entendu cette expression qui dit les sentiments mentent. Les sentiments mentent. Et c'est vrai, parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de frissons, qu'on a les poils qui s'hérissent, que Dieu n'est pas là. Ça, c'est entièrement faux. Et c'est jamais vu dans la Bible que les gens ont, que Dieu ne s'est pas manifesté parce que les poils des gens sont levés. Donc, madame, si vous vous rasez, ça veut dire que Dieu n'est jamais là. Alors, si on continue cette pensée, on en reviendrait à ça. Mais Dieu est là parce qu'il le dit. Parce que dans sa parole, il nous le promet. Alors, honnêtement, est-ce que Dieu mentirait? Jamais. Alors, parce qu'il nous le dit, il est là. Lorsque vous priez, il est là, il vous écoute. Lorsque vous priez, il est là et il vous écoute. Exode 34, verset 29. Moïse descendit de la montagne du Sinaï. Ayant les deux tables de témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Relis la fin de cette partie. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Lorsque tu parles à l'Éternel, tu es transformé. Alors peut-être que ta peau de ton visage ne va pas s'illuminer, mais tu vas être transformé. Et les gens autour de toi le verront. Les gens autour de toi verront une différence. Les gens autour de toi réaliseront qu'il y a quelque chose de différent entre toi et eux. Moi, j'ai ma sœur, une fois, quand elle habitait à Reims, dans la même après-midi, sur le même chemin, elle rentrait chez elle, deux personnes l'ont arrêtée en disant « Madame, je dois vous dire que vous avez vraiment quelque chose de spécial, de merveilleux dans vos yeux, il y a quelque chose qui rayonne comme ça. » Pourquoi? Parce qu'elle passe du temps avec Jésus. Parce que lorsqu'on passe du temps avec Dieu, nous sommes transformés. Et nous ne sommes pas simplement transformés physiquement, nous sommes transformés surtout intérieurement. Parce que Dieu nous attire toujours plus vers lui. Plus nous passons du temps avec lui, plus nous lui ressemblons. Et ça, moi je sais que personnellement, c'est une prière que je fais tous les jours. Dieu, permets-moi de te ressembler toujours plus. Mon but sur terre, le premier but de ma vie, honnêtement, ce n'est pas de voir des miracles, ce n'est pas de voir des guérisons, ce n'est pas de voir, et j'irais même jusqu'à dire, des âmes sauvées. Le premier but de ma vie, oui, tout ça je veux le voir, et par la grâce de Dieu je le vois, mais le premier but de ma vie, c'est de grandir et de connaître toujours plus Dieu. Et pour moi, c'est le plus important, de connaître mon Père, de passer du temps avec lui. C'est ça qui me motive toujours plus. Parce que lorsque j'étais dans le trou, est-ce que vous avez déjà entendu mon témoignage? Est-ce que des gens ont déjà entendu mon témoignage?
Non.
Personne? Oh, alors il faut que je vous le... Vous l'avez déjà entendu?
Je vous le
donne rapidement. Mais moi, je me suis retrouvé en 2012, je me suis retrouvé dans un temps où j'étais tellement mal que j'ai voulu m'ôter la vie plusieurs fois. Et je me suis retrouvé à avoir des problèmes psychiques. On a pensé que j'étais dans la dépression, on a pensé que je faisais des crises d'angoisse, je faisais de la tétanie. Vous imaginez que parler rien que devant ce nombre de personnes, c'était impossible pour moi. J'étais paralysé, je tremblais. Et ça, les médecins l'expliquent en disant que c'est des crises de panique, d'angoisse. Je m'arrêtais de respirer. Je commençais à avoir des hallucinations. Et ça, dans les milieux chrétiens et encore plus évangéliques, on a tendance très rapidement à dire que c'est de l'ordre démoniaque. Mais laissez-moi vous dire que moi qui suis passé par là et qui crois aux démons, qui a déjà expérimenté des délivrances, qui a déjà vu prier pour des gens et les démons avaient quitté le corps, ce n'est pas que démoniaque. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas une chose que c'est tout de suite de l'ordre du que c'est tout de suite démoniaque. Moi, c'est important pour moi de dire ces choses-là parce que lorsque j'étais malade et que j'avais des problèmes, vous savez, je rentrais d'une école biblique. Et en général, les démons, on les attrape pas comme la grippe. Hein. On joue avec le feu quand un démon entre en nous. Moi, je rentrais d'une école biblique. Je marchais avec Dieu. Et les médecins, et même les médecins chrétiens, vous diront que oui, il y a des maladies psychiques. Oui, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que c'est tout de suite démoniaque. Oui, il y a des maladies psychiques. Oui, on peut avoir des hallucinations sans être possédé. Si vous faites le scanner d'un schizophrène, par exemple, vous verrez une malformation de son cerveau. Si vous faites une prise de sang chez un dépressif, vous verrez son taux de mélatonine, si je ne me trompe pas. De Mais oui, c'est ça, exactement.
Mélatonine, c'est la peau.
Mélatonine, hein, c'est ça?
Peut-être mélatonine, vous avez oublié
ça, peut-être. C'est ça, oui, c'est ça, je crois. C'est ça. Vous verrez que son taux de mélatonine est trop bas. Et si je vous dis un mot, je suis désolé, je ne suis pas médecin. Et puis, en tout cas, le corps l'explique. Et tout autant qu'un cancer, les maladies psychiques, ça a besoin de temps et de guérison. Et moi, je me suis retrouvé dans un temps comme ça. C'est d'ailleurs à ce moment-là où j'ai rencontré de nouveau ma fiancée. On s'est mis ensemble. D'ailleurs, vous ne la connaissez pas, mais elle vous salue. Voilà, en passant, je dis au téléphone tout à l'heure. Vous la verrez peut-être un jour. Mais c'est là-dedans que j'ai pu rencontrer de nouveau ma fiancée, qui est devenue ma fiancée après. Mais ça a duré 11 mois. Pendant 11 mois, j'ai dû arrêter mes études, j'ai arrêté mon permis de conduire. J'ai dû tout arrêter, j'avais 3 ou 4 mois d'arrêt maladie. Et je me suis retrouvé toujours au fond du trou. Et les 11 mois ne passaient pas. J'avais l'impression que je touchais le fond, je touchais toujours plus un fond plus profond. Ça allait toujours plus bas, toujours plus bas, toujours tout s'aggravait. J'avais 12 à 13 pilules par jour de médicaments. Et c'était des choses comme du Valium, des Temesta, si vous connaissez un petit peu. J'avais 6 Valium par jour, c'était des choses, des taux énormes. Et à cause de cela, j'avais des effets secondaires qui étaient très graves. Je me suis retrouvé bien souvent entre la vie et la mort à cause des médicaments. Mais, encore une fois, les médicaments sont là comme des béquilles. Moi, j'ai des gens, lorsque j'ai donné mon témoignage, ils m'ont dit « Moi, par la foi, je vais arrêter mes médicaments. » Là, j'ai dû être dur avec eux. Parce que je leur ai dit « Moi, j'ai arrêté mes médicaments quand j'ai été guéri. » C'est très dangereux de vouloir arrêter ces médicaments avant de voir une guérison. Donc, moi, j'avais toutes ces choses-là et je me suis retrouvé au fond du trou. Et arrive décembre 2012. Je me suis retrouvé en hôpital psychiatrique pour la troisième fois. Puis là, voilà, j'en avais vraiment marre de la vie. Même si j'aimais Dieu, c'était très difficile. Et vous savez, lorsque je donne mon témoignage, je parle de Jérémie qui dit dans Lamentations 3, vous pourrez lire tout le chapitre qui est merveilleux, où on voit qu'il est sincère et la prière, c'est ça, c'est être honnête avec Dieu. Si vous vivez un temps difficile, peut-être que vous en vivez. Ça peut être toutes sortes de choses, des difficultés à l'école, des difficultés au travail, des difficultés de relations. Des difficultés avec vos parents, des difficultés avec vos voisins, toutes sortes de choses, une maladie. Mais si vous vivez des temps difficiles, vous pouvez être honnête avec Dieu. Et Jérémie était honnête et disait, on va lire une partie. Lamentations 3, on va prendre à partir du verset 19, où il parle et il dit, tu m'as enivré d'absinthe et de poison. Et alors tout de suite c'est moins joyeux, hein, ça casse tout de suite un peu l'ambiance. Mais regardez comme c'est merveilleux. Et moi je crois que le Seigneur m'avait donné ce verset pour vraiment m'encourager et me fortifier dans ce temps-là. Et c'était vraiment pour moi une révélation. Tout le passage de Lamentation 3, la première partie, Jérémie dit à quel point il souffre et il est honnête avec Dieu. On va prendre à partir du verset 16. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Et tout le passage avant, c'est que ça. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et ça, c'est exactement ce que quand je lisais ça, quand j'étais malade, je disais, mais c'est exactement ce que je vis. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Quand je pense à tout ce que je vis, je suis plus heureux. J'ai l'impression que tu as tourné ta face de moi. J'ai l'impression que tu ne m'aimes plus. Et peut-être que vous avez vécu ou que vous vivez des choses comme ça. Mais vous pouvez être honnête avec Dieu. Mais regardez ce qu'il dit après. Il dit, à partir du verset 22, même du verset 21, il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Ce verset-là, on le connaît tous très bien. Mais lire la suite et le comprendre dans le contexte est beaucoup plus riche. Pourquoi ? Parce que Jérémie, à ce moment-là, il prend une décision. Il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Voici ce que je veux, ce que je décide de repasser dans mon cœur. C'est une décision qu'il prend. Et si vous êtes dans des temps difficiles, il y a un temps de décision, les amis. Il y a un temps où, oui, rien ne va. Oui, on a l'impression que peut-être même Dieu nous a abandonnés, même si Dieu nous dit qu'il ne nous abandonne pas. Oui, rien ne va. Oui, on a l'impression qu'il a détourné son regard de nous. Oui, on a peut-être l'impression qu'il a brisé nos dents contre des cailloux. Mais voici ce que vous devez, ce que nous devons repasser dans notre cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. C'est une décision qu'on prend. Et la prière, c'est ça. C'est un dialogue avec Dieu. C'est une relation reconstruite. Pourquoi ? Parce que regardez et observez Jérémie quand il prend cette décision, il la prend dans un temps de prière. Il la prend quand il prie avec son père. Et il ne s'est pas dit, il est allé au supermarché en disant, tiens, je vais prendre cette décision. Cette décision, elle est venue et je crois vraiment que c'est Saint-Esprit qui lui avait inspiré à ce moment-là, mais de reprendre cette décision alors qu'il était en communion avec son père, alors qu'il priait, alors qu'il était honnête simplement en lui disant à quel point il souffre, il décide de prendre cette décision. Et si vous êtes dans des temps difficiles, c'est la prière qui vous poussera toujours plus à garder espoir. Et moi, dans ma maladie, c'était ce qui me donnait l'espoir. Mais vous savez quoi ? J'ai eu ce verset et vraiment ce cadeau de Dieu qui m'a permis de m'accrocher très tôt dans la maladie. Mais ça a encore duré 11 mois. Ce n'est pas parce que j'ai commencé à proclamer comme ça et à croire et à me rappeler tout ce que j'avais vécu avec Dieu, parce que j'avais vécu des choses, des expériences avec Dieu, que j'ai tout de suite été guéri. L'épreuve reste là. L'épreuve reste là. Demain, je pense que je parlerai de l'épreuve. Et l'épreuve reste là. Mais c'est ce qui nous permet de tenir. Et Dieu est bon. Et Dieu ne nous abandonne pas. Et je crois que les temps d'épreuve, les temps de désert, nous permettent de grandir. Et j'en viens à la fin de mon histoire, où je me suis retrouvé en hôpital psychiatrique. Et en plus d'être en hôpital psychiatrique, j'étais dans la partie la plus stricte et la plus difficile de l'hôpital. Et en plus dans cette partie-là, parce que j'avais fait une bêtise, et encore maintenant je ne suis pas fier, mais je me suis retrouvé en isolement dans cette partie-là. Et pendant 5 jours, la première journée, j'étais attaché au lit, les bras et les jambes, je n'avais pas le droit de bouger. J'étais filmé par une caméra, je ne pouvais pas sortir, pas lire, je n'avais pas le droit de visite, rien de tout cela. Et puis j'ai parlé à Dieu, et j'ai crié, mais comme Jérémie, comme à nouveau. Et oui, c'était difficile, et oui, je voulais m'ôter la vie, parce que c'était plus facile pour moi de mourir que de vivre. C'était vraiment une lutte constante. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais dans ce temps-là, j'ai prié à Dieu, et je lui ai demandé de m'aider. Au bout de 3 jours, je me suis réveillé un matin, c'était fini. J'avais plus rien, plus d'hallucinations. J'avais plus envie de me tuer. J'avais plus besoin de médicaments, je me suis sevré de milliers de pilules que j'avais pris. J'étais sevré. Trois jours après, j'étais totalement sevré. Ça, les médecins vous disent c'est pas possible parce que c'est, vous savez, le Valium, c'est ce qu'on donne aux drogués pour compenser dans les hôpitaux. Et moi, j'étais addict à ces choses-là. J'étais sevré. J'étais plus dépressif. J'étais joyeux. Alors les médecins n'ont pas cru que j'étais guéri. Ils ont pensé que je faisais semblant pour sortir. Du coup, ils m'ont laissé encore une semaine et demie en hôpital. Mais c'était fini. Et depuis ce jour-là, c'est totalement fini. Et depuis ce jour-là, je suis totalement guéri. Et depuis ce jour-là, je témoigne et je rencontre des gens qui vivent des difficultés ou qui connaissent des proches qui vivent des choses comme ça. Et je peux leur dire, mais il y a de l'espérance en Jésus. Et avec le recul, sur le thème de la prière, ça peut paraître fou, mais avec le recul, je dis, mais je suis tellement reconnaissant à Dieu d'être passé par là, parce que ma relation avec lui a tellement évolué. Maintenant, lorsque je vous dis que Dieu est fidèle, c'est que je vous dis que Dieu est fidèle. Amen. Il ne m'abandonne pas et il ne vous abandonne pas. Ce n'est plus quelque chose que je comprends dans la tête. C'est quelque chose que je vis avec mon cœur parce que je l'ai vécu. Et la prière vous fera vivre des choses qui peut-être, par moments, vous amèneront à ne pas comprendre les choses. Peut-être que, Dieu, dans vos temps de prière, vous convaincra de faire quelque chose, de dire, d'aller voir une personne, d'aller à tel endroit. Et peut-être que la prière va développer une relation où Dieu va tellement vous parler que ça ne va pas simplement être dans vos temps, dans votre chambre, mais ça va être dans la rue où Dieu va vous dire, va voir telle personne. Et alors là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu vous pousse toujours plus loin, toujours plus proche de lui. Et la prière, ça vous amène toujours plus vers lui. Et c'est pour ça que la prière est tellement importante. Parce que dans les temps difficiles, elle vous amènera toujours vers votre Père, vers celui qui finalement est la source de...
Ouais, mais est-ce que... Merci.
Qui finalement est vraiment la source de notre bien-être. Ce n'est pas la guérison qui va être la source de notre bien-être, c'est Dieu. Ce n'est pas le travail... Merci beaucoup. Ce n'est pas l'emploi qui va être la source de notre bien-être, c'est Dieu. Ce n'est pas la santé qui va être la source de notre bien-être, c'est Dieu. Si c'est ça, votre source de bien-être ou ce que vous pensez, mais remettez-vous en question. Parce que Paul nous dit, réjouissez-vous dans les épreuves. Si on peut se réjouir dans les épreuves, c'est-à-dire qu'on se réjouit lorsqu'on est dans les épreuves. Ce n'est pas parce que ce n'est pas parce qu'on marche avec Dieu qu'on n'a pas d'épreuves, qu'on n'a pas de maladie, qu'on n'a pas tout ça. Ça, c'est faux. Parce que la vie est dure. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais là, je déborde sur mon message de demain. Donc, revenez demain. Hein. Mais la prière nous encourage toujours plus à chercher Dieu. Amen.
Amen.
Je crois juste que votre montre, elle est cassée, en fait, là-bas. Depuis avant, je la regarde, ça doit faire une demi-heure, elle ne bouge pas, donc je me dis ok. Mais c'est, elle est à l'heure. Ok, bon, bah, c'est, Seigneur, tu as arrêté le temps pendant 5 heures. Vous me laissez encore combien de temps? Encore pour 15. D'accord, mais c'est bon, ça va aller. Mais la prière est tellement importante, les amis. Tellement importante. Jésus savait prier. Jésus savait prier. Pourquoi? Parce que oui, on peut prier des choses que Dieu n'exaucera pas. Oui, on peut mal prier. Alors peut-être que vous n'avez jamais entendu ça, mais oui, on peut mal prier. Oui, prier, ce n'est pas dire tout ce qu'on veut, comme on le veut, quand on pense, n'importe quoi. Pourquoi? Parce que Jésus nous donne un exemple de prière, le Notre Père. On le connaît, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Jésus nous apprend à prier. Pourquoi? Parce qu'on peut prier faux, on peut prier mal. Et on va voir comment est-ce qu'on peut bien prier. Jésus savait prier. Et Jésus, pour moi, c'est l'exemple ultime. Les amis, dans le caractère de Jésus sur terre, il était parfait. Et je crois qu'il y a tellement de choses qu'on peut creuser dans tout ce qu'il avait dans son caractère. Tellement de choses qui sont importantes. Mais Jésus, c'était quelqu'un qui savait prier. Et je crois que c'était la clé de tout le reste. Jésus savait prier. Jésus savait être en relation avec son Père. Alors, je m'étais noté le Notre Père, mais on ne va pas le lire, on ne va pas faire tout ça. Mais c'est lorsqu'on regarde, lorsqu'on étudie un petit peu le Notre Père, qui est tellement riche aussi dans tout ce qui est dit, on voit que d'abord Jésus adore. Ensuite, il dit que ta volonté, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Il recherche la volonté de Dieu. Ensuite, il y a « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Il exprime les besoins. « Pardonne-nous nos offenses. » Et il y a une repentance. Dans notre communion avec Dieu, il y a toujours une repentance. Parce que c'est toujours lorsqu'on se repent qu'on se rapproche de Dieu. Le péché nous éloigne toujours de Dieu. Mais la repentance nous rapproche toujours de lui. Et dans nos temps de prière, il doit bien souvent On doit bien souvent, normalement, si on le fait sincèrement, être convaincu de pécher dans quelque chose. Bien souvent, en tout cas, moi je pêche encore, hein, je ne sais pas, peut-être je ne suis pas du même monde que vous, mais en tout cas, moi, ça m'arrive de pécher. Oui. Et Paul ne dit pas qu'en tant que chrétien, on est des pêcheurs, il dit qu'on est des saints à qui il arrive de pêcher.
Mm-hmm.
Ce n'est pas la même chose. Lorsqu'on est pêcheur, on est de nature pécheresse. Une fois qu'on a accepté Jésus, on est une nouvelle créature. Mm-hmm. On est des saints à qui il arrive de pêcher. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui nous amène toujours plus à ressembler à notre Sauveur. Puis après la repentance, il y a la demande de protection. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, protège-nous. Car c'est à toi qu'appartiennent, au siècle des siècles, la puissance, le règne et la gloire. Et ça, on rend gloire à Dieu. Une prière qui n'a pas pour centre Dieu. Et encore une fois, parce qu'il pas ce qu'il peut nous donner, mais lui-même. Ce n'est pas une bonne prière. Une prière qui est que là pour ce que Dieu peut nous donner, mais pas pour qui il est, ce n'est pas une bonne prière, ce n'est pas un bon temps de prière. Je ne dis pas, et encore une fois, c'est important, comprenez-moi bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas demander à Dieu les choses, puisqu'il nous dit, demandez, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. Dieu nous demande de lui dire les choses, de lui demander. Même s'il les connaît, il nous demande d'exprimer nos besoins, comme un papa qui prend soin de nous. Mais le but de la prière, le sens de la prière ne doit pas être ça. Le sens de la prière, c'est l'adoration de Dieu. C'est l'adoration de ce qu'il a fait, c'est lui rendre gloire pour tout ce qu'il fait. C'est s'émerveiller. Moi, je sais que mes temps personnels, j'aime passer du temps d'abord à lire la Bible et à méditer ce que la Bible me dit. Je dois dire que bien souvent, le Saint-Esprit me parle par rapport à un verset, quelque chose, un événement. Et là, je peux pas. Là, je commence automatiquement. Ma prière commence automatiquement en adorant Dieu, en ce qu'il faisait. C'est pas Dieu, tu vois, tout ce que j'ai maintenant, je te demande vraiment de me donner ça, de me donner une bonne note à l'école, de me donner un meilleur salaire. D'abord, je commence à adorer Dieu. Mes besoins viennent tout de suite ensuite. Parce que la priorité, c'est pas d'exprimer mes besoins, c'est de l'adorer parce qu'il est tellement digne. Amen. La prière, la bonne prière, c'est une prière qui adore Dieu. C'est une prière qui lui rend gloire. Priez ce que Dieu veut. Voilà la bonne prière. Priez ce que Dieu veut. Oui, on lui rend gloire, mais lorsqu'on exprime nos besoins, on prie ce que Dieu veut. On ne prie pas n'importe quoi. On prie ce qui est dans la volonté de Dieu. Savoir prier, ça s'apprend. C'est comme lorsque vous êtes, si vous faites un instrument, ça s'exerce. Moi, j'ai appris à jouer la guitare ou au piano, ça s'exerce, on s'améliore en pratiquant, en s'exerçant. La prière, c'est comme un muscle. Si vous voulez être musclé comme moi, bon, alors n'imitez pas mon exemple. Si vous voulez être musclé comme monsieur, alors tu fais du sport. Ah ben voilà, je le savais. Si vous voulez être musclé comme lui, il faut faire du sport. Si vous voulez être musclé comme moi, il faut rien faire du tout. Il faut juste manger. Si vous voulez muscler votre prière, il faut pratiquer. T'es d'accord? Tu te muscles pas si tu fais pas de sport. Oui. Ah ouais. Tu m'as l'air pas sûr. Donne-moi ton truc parce que ça serait pratique pour moi. Sinon, je dois rentrer dans mon pantalon de mariage bientôt, donc ça serait pratique. Mais si on veut se muscler, le muscle de la prière, c'est comme le muscle de la foi. Ça se pratique, ça s'exerce, et avec le temps, avec la pratique, avec finalement la persévérance également, le muscle de la prière grandit. Et notre prière est de plus en plus efficace, de plus en plus forte. Notre prière est toujours plus. On est tout d'un coup, nos temps de prière, on n'a pas besoin de passer 20 minutes à penser à ce qu'on va manger, puis à ce qu'on va faire aujourd'hui et tout ça. Non, notre prière est tout de suite concentrée sur Dieu. On est tout de suite dans l'adoration. Et ça, c'est le muscle de la prière qui s'agrandit. Donc si vous êtes si maintenant, je sais que je vous encourage à prier, vous allez vous dire, ok, moi je vais passer du temps dans la prière. Et là, rien ne va se passer. Je dis pas ce qui va. Mais si ça se passe comme ça, vous dites pas, c'était n'importe quoi ce qu'il a raconté. Persévérez, les amis, persévérez, parce que c'est pas tout le temps comme on le veut, quand on le veut. Persévérez, parce que le muscle de la prière se développe. Si moi, je souhaitais devenir musclé tout d'un coup, je le ferais. Mais non, ça doit se travailler, ça doit s'exercer, ça doit se pratiquer. La prière, ça se pratique, ça se construit. Et Dieu aime que ses enfants prient ce que lui veut, ce que lui souhaite pour ses enfants. Si vous priez, encore une fois, que Dieu vous donne une Ferrari rouge, et que ce n'est pas dans sa volonté, ne vous étonnez pas qu'il ne vous répond pas. Ou qu'il ne vous... Si, il va vous répondre en vous disant non. Mais si vous priez en disant, mais Dieu, mais même pour ça, Dieu, est-ce que c'est ta volonté que j'achète cette voiture? C'est pas une mauvaise prière. On prie la volonté de Dieu. Moi, je donne un petit témoignage, je me suis retrouvé, j'aimerais développer une action dans les quartiers en Suisse, et ça fait un an qu'il y a eu assez de difficultés. Et maintenant que j'ai eu l'autorisation de la part de mon église pour lancer, merci Seigneur. Mais attends, c'est pas fini, la fin de l'histoire. Sinon, je dirais que vous me sourire. Ouais. Maintenant que j'ai eu l'autorisation, je me suis dit super, maintenant je vais enfin aller. Le Seigneur, il y a un an et demi, m'a montré un quartier et m'a dit c'est là que tu dois faire. Et j'étais convaincu et je suis sûr encore maintenant que c'est là-bas. Et du coup, je vais voir la responsable. Je lui écris un mail et cette dame, je ne l'ai jamais rencontrée, elle me dit non, c'est pas possible. Alors j'ai dit, écoutez, j'avais envie de lui dire, c'est pas possible que vous me dites non, puisque Dieu m'a dit que c'est là. Mais je lui ai pas dit ça. Mais je lui ai écrit, mais écoutez, moi je vous propose qu'on se rencontre pour discuter, au moins, voir en visuel. Moi je sais que les gens, quand ils me voient, ils sont peut-être plus enthousiastes. J'arrive plus à enthousiasmer par mes mots que par le mail. Et là elle me dit, non, c'est pas possible. Je lui ai dit, mais écoutez, au moins, l'excuse, c'est que les personnes âgées autour de la place seraient dérangées. Mais c'est une excuse qui ne tient pas la route puisqu'il y a une place de jeu en dessous. Et les enfants sont déjà là en train de jouer. C'est juste qu'ils n'ont pas une équipe qui s'occupe d'eux. Donc je sentais que c'était quelque chose qui était faux. Alors elle me dit non. Je lui écris, laissez-moi faire un essai. Et puis je passe, je vais voir tous les locataires et je leur demande si ça les a dérangés. Non. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on se rencontre? Non. Est-ce que je peux vous présenter le projet? Non, 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 rien du tout. Et là, je me suis retrouvé devant les mails. Alors que j'ai enfin réussi à convaincre mon église de me lancer, de lancer le projet, et là je me suis dit, mais Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et pendant 2 semaines, le pire c'est que quelques temps après, je devais rencontrer l'équipe que je prends avec moi pour faire les actions dans les quartiers, et je devais leur annoncer que rien n'allait, quoi. Du coup, je priais, je dis, mais Dieu, parle-moi, quelle est ta volonté? Est-ce que je me suis dit, vous savez, quand on est dans ça, je me suis dit, peut-être que ta volonté, c'est que finalement, je commence un autre quartier, et puis tu m'as dit que tu me donneras ce quartier un peu plus tard. Peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, dis-moi, est-ce que tu veux que je commence un autre quartier, ou est-ce que tu veux que je persévère ici? Je ne sais pas comment, mais en tout cas, je vais continuer à prier, mais ça ne me semble pas trop le truc à faire, quoi. Mais je priais, et sincèrement. Et si vous priez sincèrement et vous cherchez la volonté de Dieu, il vous répondra tôt ou tard.
Amen.
Tôt ou tard, c'est sûr et certain. Je disais à un ami gabonais tout à l'heure, hier soir, parce que je prêchais dans le groupe de jeunes hier soir, et il a raté ses études en Suisse et il doit rentrer au Gabon. Et maintenant, il est convaincu, et c'est un homme qui aime Dieu, hein, il est convaincu, il n'est pas sûr d'avoir obéi à Dieu en venant en Suisse. Et je lui ai dit, tu sais, fidèle, c'est ce qui s'appelle fidèle. Je lui ai dit, tu sais, fidèle, il y a une chose que j'ai réalisée, c'est que si on aime Dieu de tout notre cœur et qu'on cherche sincèrement sa volonté, comme il l'a fait, alors on sera obligatoirement dans sa volonté. On ne peut pas se tromper. Parce que Dieu n'est pas un Dieu méchant qui fait que nous nous trompons si nous n'avons pas fait, suivi le signe et tout ça. Si on cherche sincèrement la volonté de Dieu, si on le cherche véritablement, on est obligatoirement dans sa volonté. Obligatoirement, on ne peut pas se tromper. Parce que Dieu est un Dieu qui nous aime. Et il ne veut pas dire, tiens, je ne te réponds pas, tape-toi le mur et puis moi je rigole un peu. Non, Dieu est un Dieu qui nous amène sur ses voies. Et lorsqu'on cherche sincèrement, demandez, vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Qu'est-ce que c'est? C'est chercher la volonté de Dieu. C'est chercher la volonté de Dieu. Demandez, vous recevrez. C'est pas plus compliqué. Et les échecs, à nos yeux, comme pour mon ami fidèle qui a raté ses études, ce n'est pas des échecs aux yeux de Dieu. Et puis moi, je me suis retrouvé par rapport à ce quartier-là. Et je priais. Et puis il y a une semaine, Dieu me répond. Mais c'était la réponse que je ne voulais pas, en fait. Moi, je préférais l'autre. Et puis la réponse était, tu persévères ici, tu continues à prier et tu verras, je vais t'ouvrir la porte. Amen. Oui, mais j'aurais préféré démarrer dans un autre quartier, c'est plus simple, vous savez, parce que j'ai toute l'église derrière qui attend un truc. Hein. Mais une fois que j'ai reçu ça, c'était simple, j'étais en paix. J'ai pu parler à mon équipe en disant, voilà ce que moi j'ai reçu. Je vous ai demandé de prier pour, qu'est-ce que vous avez reçu? Ils ont tous reçu la même chose. Et moi, avec cette décision, je suis en paix. Et oui, je sais que maintenant Dieu ouvrira. Et maintenant, bien sûr que je suis à l'aise avec ça parce que c'est la volonté de Dieu. Moi, je ne suis pas à l'aise quand je ne suis pas sûr que c'est la volonté de Dieu. Moi, je suis à l'aise, je suis en paix, peu importe le mur et la porte fermée à double tour qui se trouve devant moi. Si Dieu me dit que c'est là, persévère, alors ça s'ouvrira. Il n'y a pas de souci. Et puis la prochaine fois que je reviendrai, je vous dirai comment le quartier s'est ouvert. Et vous verrez que Dieu répond aux prières. Si vous avez suivi l'histoire de l'agrandissement de Mulhouse qui a été bloqué pendant 3 ans, c'est quelque chose qui s'est passé comme ça. Ils ont persévéré, ils étaient persuadés. L'agrandissement à la porte ouverte à Mulhouse, d'un coup, tout s'est libéré. Toutes les portes sont ouvertes. Alors que les autorités ont dit « demandez le permis de démolir », tout d'un coup, tout a été ouvert. Et vous savez, c'est des projets à 3 millions d'euros. Des choses, c'est pas 10 euros. Hein. Et Dieu a été fidèle. Dieu a encouragé la foi de chacun qui a persévéré dans cette voie-là. Et lorsque vous cherchez la volonté de Dieu, toujours, toujours, vous la recevrez. Si vous la cherchez sincèrement. Pas si vous la cherchez en disant « bon, si ce que tu me dis, ça ne me plaît pas trop, je vais quand même faire ce que moi je pense. » Non, non. Seigneur, quelle est ta volonté? Parce que je veux faire ce que toi tu veux. Parce que ce que toi tu veux est toujours le meilleur pour moi. Ce que toi tu veux est toujours le meilleur pour ce que je vis. Ce que toi tu veux est toujours ce qui m'amène sur le meilleur chemin, même s'il est plus difficile, même s'il est plus long. C'est toujours, toujours le meilleur. Quelle est ta volonté? Amen. Amen. J'en arrive à la fin. Je suis même dans les temps. J'en arrive à la fin. La fin, mais la prière de la foi et de persévérance, et c'est justement ça. La prière de la foi et de persévérance, lisons ensemble Luc 18, versets 1 à 7. Alors, moi, je perds tous mes papiers dans cette Bible. Luc 18, versets 1 à 7. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve
voilà,
qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il jour et nuit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?» La prière demande de la persévérance. La prière, ce n'est pas tout d'un coup du jour au lendemain. Encore une fois, j'ai été guéri au bout de 11 mois. Mais la prière, ça demande de la persévérance. Pourquoi ? Parce que Dieu nous apprend toujours quelque chose. Dieu est un père. Et un père, ça éduque. Et la persévérance nous encourage à persévérer, j'allais dire oui. C'est la définition de la persévérance. La persévérance nous encourage à toujours plus lui faire confiance. Est-ce que notre patience serait exercée si lorsqu'on demande à Dieu quelque chose, cela vient tout de suite ? Non ? Vous êtes d'accord avec moi ? La patience n'est pas là si dès qu'on demande quelque chose, ça vient tout de suite. La patience est là si vous êtes avec moi dans une voiture pendant 2 heures dans un bouchon. Dieu l'exerce. Et si vous priez pour recevoir de la patience, attendez-vous à ce que Dieu vous envoie de nombreux bouchons ou des personnes qui exercent votre patience. Dieu vous dit pas, si vous priez, Dieu, Seigneur, donne-moi de la patience. Vous attendez pas tout d'un coup, vous allez pouvoir attendre comme ça sans problème. Dieu va exercer votre patience. Et la persévérance dans la prière, c'est ce qui nous fait nous exercer. Et c'est ce qui nous provoque cette foi qui est là. La foi, elle est là lorsque les temps sont difficiles. La foi est là lorsque la prière ne voit pas tout de suite l'exaucement. Mais persévérez, et vous verrez que l'exaucement sera là. Le Georges Müller de qui je parlais a prié pendant 30 ans pour 3 jeunes. C'est à la fin de sa vie. 2 se sont convertis. Le dernier s'est converti 1 an après qu'il décède. Pendant 30 ans, il a prié. 30 ans. C'était un homme qui tenait à jour. Et c'est d'ailleurs, moi, ça m'a tellement touché que j'ai commencé ça et je crois que Dieu va vraiment bénir ça. Il tenait un journal de toutes ses prières et de tous ses exaucements avec la date. Et ça, moi, j'ai beaucoup de journaux où j'écris. Je vais avoir 3 ou 4 journaux où j'écris comme ça parce que moi, j'aime écrire. Mais lorsqu'on relit ces choses-là, alors on voit à quel point Dieu est fidèle. Et notre prière, lorsqu'on est dans des temps difficiles, nous fortifie. Moi, je vous encourage à avoir, si vous n'en avez pas, des carnets où vous écrivez vos difficultés, mais aussi les exaucements de prière. Pourquoi ? Parce que lorsque Jérémie dit dans Lamentation, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est justement, il repasse dans son cœur également tout ce qu'il a vécu avec Dieu. Tout ce qu'il a vécu. Lorsque l'Éternel dit à Moïse, grave ce qui s'est passé sur les tables de pierre, de peur que tes fils ne les oublient, ça veut dire que nous, autant que Moïse, à plus forte raison, on doit noter les exaucements de prière. Parce que notre mémoire s'efface vite, rapidement on oublie. Mais ça nous montre la fidélité de Dieu. Et dans les temps difficiles, on voit la fidélité de Dieu. Et dans les temps de persévérance, dans l'épreuve, on voit la fidélité de Dieu. Amen. Amen. Et voilà, j'en arrive à la fin. Quelles sont les conséquences d'une vie de prière ? Quand même, c'est intéressant de parler de toute la vie de prière. Mais quelles sont les conséquences ? Rapidement, notre relation avec Dieu grandit. On apprend à le connaître. On apprend à discerner quelle est sa volonté. Et ça, pour des chrétiens, c'est essentiel de discerner quelle est la volonté de Dieu. Nous sommes renouvelés dans notre amour pour les autres, dans notre joie, notre persévérance, notre patience, dans nos forces. Je crois que si vous avez du mal à vous lever, moi je vous encourage à passer des temps journaliers avec Dieu. Peut-être certains, c'est le matin, d'autres ça va être le soir, mais passez du temps avec Dieu, cherchez sa présence. Moi personnellement, je sais que le matin, j'aime chercher sa présence avant de commencer ma journée. Et même s'il faut sacrifier un peu de temps de sommeil, Dieu le redonne à chaque fois à ses enfants. Amen. Qui le cherchent. Et bien, alors avec de la sagesse, hein, parce que si vous dormez 2 heures et vous en passez 4 à prier, Dieu nous a donné un corps quand même. Hein. Ne l'oublions pas. Qu'est-ce qu'on voit aussi ? Notre foi est fortifiée en voyant les exaucements de prière. Notre foi grandit. Nous réalisons la grâce que nous avons de pouvoir parler à Dieu. Et nous savons écouter par Dieu, peu importe nos sentiments. Voilà quelques conséquences d'une vie de prière. Mais la vie de prière, elle porte du fruit si on la cultive. Tout comme une terre porte du fruit quand on la cultive. Une vie de prière porte du fruit quand vous la cultivez. Si vous cultivez une terre une fois tous les 10 ans, elle ne va pas porter beaucoup de fruits. Si vous cultivez votre vie de prière une fois par mois ou seulement le dimanche matin quand vous venez à l'église, elle ne portera pas de fruits, les amis. Ou un tout petit peu à peine. Mais imaginez la puissance qui se trouve dans la prière de celui qui prie fidèlement, journalier, de façon journalière. Que vraiment, il cherche la face de Dieu tous les jours. Il passe du temps. Ça, c'est une prière, une terre dans laquelle la prière peut porter beaucoup de fruits. Parce que celui qui la pratique est un homme persévérant, est un homme qui est fidèle, est un homme qui est constant. Ce n'est pas quand tout va bien qu'il prie. Ce n'est pas seulement quand tout va bien qu'il commence à prier. C'est peu importe. Je remercie mon Dieu. Peu importe, je le cherche. Amen.
Amen.
Voilà, je vous encourage vraiment à passer du temps. Je vous encourage à passer du temps à chercher Dieu et à rechercher sa présence, peu importe l'âge, peu importe où est-ce que vous en êtes avec Dieu. Amen.
Amen.
On va prier ensemble pour terminer.
Amen.
Amen. Seigneur, je veux vraiment te remettre, Seigneur, chaque frère et sœur qui sont ici, peu importe les âges. Seigneur, merci parce que nous avons la chance et la grâce, l'honneur de pouvoir te prier. L'honneur de pouvoir, Seigneur, nous adresser au roi des rois, au créateur de l'univers, à celui qui a payé de sa vie, notre sauveur, celui qui a donné toutes choses pour nous. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Et merci car en plus de tout cela, tu nous donnes la grâce de pouvoir nous adresser à toi. Quel honneur! Quel honneur, Seigneur! Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons négligé de nous adresser à toi lorsque nous en avons besoin. Pardonne-nous de toutes les fois où nous avons préféré de faire par nos propres forces. Pardonne-nous de toutes les fois où finalement nous sommes venus à toi pour te demander des choses et pas pour qui tu es. Seigneur, tu es tellement digne d'adoration, tu es tellement digne de reconnaissance, tu es tellement digne que nous te rendions gloire, Seigneur. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Et Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et moi-même, chacune de mes sœurs, Seigneur, que nous soyons renouvelés dans notre vie de prière. Seigneur, et que nous puissions, peu importe l'âge que nous avons, pouvoir découvrir que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Seigneur, dans mon temps de maladie, elle m'a sauvé la vie. Seigneur, et je crois que dans leur temps difficile, elle les secourra, elle les fortifiera, Seigneur, et que chacun, où qu'il en soit dans sa vie de prière, puisse être renouvelé dans ses forces. renouvelé dans ses forces spirituelles, qu'il puisse être renouvelé dans sa foi et dans sa fermeté, et que chacun puisse se mettre à prier avec persévérance, avec fidélité, avec constance, parce que tu es bon, Seigneur, parce que tu es digne, parce que tu es fidèle et que tu ne faillis pas à ta parole, tu ne faillis pas à ta promesse, tu es un bon papa qui prend soin de tes enfants. Seigneur, et nous voulons te dire merci pour cela. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, Seigneur. Merci infiniment de la joie que nous avons de nous retrouver entre frères et sœurs, Seigneur. À toi soit, toi revienne toute la gloire et la louange. Amen.
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 Amen. Amen. On reste tous dans cette même attitude.
Amen.
On va laisser le frère s'asseoir. On reste dans cette même attitude.